Géopolitique, Marie-France Chatin.
Bonjour et merci de nous rejoindre pour cette édition de Géopolitique. Le Centre de Recherche Internationale de Syrie, rattaché à Sciences Po, organisa il y a quelques jours à Paris, conjointement avec l'Association of United States Army et le Royal United Services Institute, think tank britannique, ainsi que l'Université américaine Notre-Dame-du-Lac, une conférence transatlantique sur la question de l'emploi ou non des forces militaires terrestres dans des zones de conflit. La signification et les implications militaires, politiques, diplomatiques et éthiques entourant la décision de déployer des troupes, un sujet à l'actualité multiple, Syrie, Irak, Mali, Ukraine, Yémen, source de débats comme régulièrement au Congrès américain appelé à se prononcer sur les orientations de l'administration Obama ou dans d'autres instances. Nos invités, Frédéric Ramel, spécialiste des relations internationales, professeur à Sciences Po, bonjour.
Bonjour.
Frédéric Charillon, professeur des universités en sciences politiques et directeur de l'IRSEM, l'Institut de recherche stratégique de l'école militaire, bonjour.
Bonjour.
Et Ariel Colonomos, directeur de recherche au CNRS. Série Sciences Po, auteur de plusieurs ouvrages, dont le dernier, La politique des oracles, paru chez Albin Michel. Bonjour.
Bonjour.
Faire ou ne pas faire intervenir les forces terrestres dans une zone de conflit, la question trouve-t-on son acuité, particulièrement après les interventions de ce début de millénaire en Irak et en Afghanistan, dont les résultats sont pour le moins mitigés, ce qui rend la prise de risque aujourd'hui particulièrement questionnable. Où en est-on dans les sphères décisionnelles aujourd'hui quant à la réflexion? Quels sont les arguments en faveur, les arguments contre, en fonction des situations et des pays concernés? Que dire finalement de la signification ou des signification qui entoure la décision de déployer des troupes, Frédéric Ramel?
Je pense que le débat a vraiment commencé aux États-Unis. Je pense que toutes les réflexions de l'administration Obama sur quelle est la meilleure stratégie à adopter face à l'État islamique ont contribué à réactiver cette question de quel est le meilleur dispositif pour traiter ses ennemis, et dans un contexte évidemment où la première décennie 2000 a été caractérisée par deux guerres menées par les États-Unis sur deux théâtres très difficiles. Et cette question est vraiment fondamentale pour les Américains, mais elle a aussi des résonances dans le cas français aussi, puisque la France est maintenant très impliquée dans différents théâtres stratégiques, avec aussi, je dirais, du point de vue des opérations qui, du point de vue de la qualification, correspondent de plus en plus à des opérations de guerre, même si on est pas en guerre officiellement. Il n'y a plus de déclaration de guerre, par exemple, en France, puisqu'on n'utilise plus l'article 35 de déclaration de guerre. Mais en même temps, on prépare les soldats à la guerre. L'ancien CID, le Collège Interarmées de Défense, a été requalifié ces dernières années d'école de guerre. Donc, nos soldats sont amenés à être de plus en plus sur des fronts très compliqués à gérer, parce que, d'un côté, ils sont exposés à des stress de plus en plus importants sur le terrain, les troupes terrestres, et en même temps, leur métier de soldat est de plus en plus difficile parce que, pour des raisons juridiques, pour différentes raisons liées à ces théâtres, le fait d'être un soldat aujourd'hui est de plus en plus compliqué. Oui.
Alors, Frédéric Ramel le disait, le débat a commencé aux États-Unis. Frédéric Charillon, dans quelle mesure, finalement, les interrogations d'aujourd'hui sont le fruit de la réponse militaire américaine au 11 septembre, qui a finalement contribué à affaiblir leur légitimité, à user de la force au Yémen, au Pakistan et ailleurs en Irak?
Il y a eu deux temps. Il y a eu d'abord tout l'aspect Irak-Afghanistan, c'est-à-dire l'échec, ou en tout cas les grandes difficultés américaines. Et là, on a envoyé des boots on the ground, comme pour reprendre le titre de notre journée. Il y en a eu, et ça n'a pas marché, ou en tout cas, elles ont subi des pertes très lourdes pour des résultats politiques extrêmement incertains, c'est le moins qu'on puisse dire. Ensuite, il y a eu un deuxième épisode, c'est l'épisode Obama, justement un président qui a voulu sortir de la phase post-11 septembre et qui a eu recours à des drones. Bon, et là, c'est un autre débat qui s'ouvre, qui est plus tout à fait le même. C'est-à-dire que là, dans le premier temps, on a eu les risques et les problèmes d'envoyer des troupes au sol face à un adversaire asymétrique. Et on a bien vu que là, la puissance militaire d'État classique face à des insurgés, face à des résistances sociales, avait beaucoup de problèmes. Dans un deuxième temps, ça a été presque l'extrême inverse. C'est-à-dire qu'on a vu une grande puissance user de toute sa technologie, de sa supériorité technologique pour ne pas envoyer des troupes au sol. Et là, il y a eu un double débat. Il y a eu un débat d'abord éthique sur la légitimité, sur cette façon de faire la guerre de façon déshumanisée et depuis, enfin, un petit peu comme un jeu vidéo à distance. Puis il y a même un débat sur l'efficacité. C'est-à-dire les drones font des dégâts, les drones certainement évitent des pertes humaines du côté de l'armée qui les emploie, mais les drones peuvent se tromper, les drones font des bavures, comme on dit en français. Il y a eu des maisons détruites, il y a eu des familles tuées, et tout cela de façon extrêmement déshumanisée. pour un résultat qui finalement est peut-être l'inverse de celui qui était attendu, c'est-à-dire que l'injustice perçue par les populations locales fait qu'on se demande si ça ne nourrit pas encore plus le mécontentement, la frustration, le terrorisme. Donc voilà, il y a tous ces débats, en effet, ils sont partis des États-Unis, mais en deux temps, l'administration Bush d'un côté, l'administration Obama de l'autre, pour des pratiques totalement différentes.
Ariel Colonnemos.
Tout en étant d'accord avec mes deux collègues, je voudrais également souligner une autre chose. Ce débat autour de la nécessité d'envoyer des soldats, et donc évidemment ce débat sur l'éventualité de perdre ces soldats, en fait on peut le faire remonter à une période encore antérieure qui est la décennie des années 90, qui a été de ce point de vue-là un tournant. Et souvenons-nous du Kosovo, c'est à ce moment-là où l'intervention de l'OTAN privilégie les forces aériennes et est mise en avant la politique du zéro mort, no casualty doctrine. Et ça c'est extrêmement important et très intéressant, parce que si on le compare justement aux autres guerres où les États occidentaux ont été engagés, notamment les États-Unis, on peut faire la comparaison entre le nombre extrêmement relatif dans le cas du Kosovo. Il n'y a pas eu de pertes directement liées au combat. Il y a un aviateur qui est mort, mais il n'y a pas eu d'envoi de troupes au sol. Et dans les guerres qui ont suivi, quand bien même elles ont été meurtrières, pour évidemment les ennemis des États-Unis et pour les populations civiles de leurs ennemis, mais également certains soldats américains sont morts. Mais il faut ici avoir en tête les chiffres. En Irak, sur toutes les années de la guerre, c'est à peu près 4000 soldats américains qui sont morts, et pour l'Afghanistan, c'est un peu moins de 2000. Et si vous comparez ces chiffres-là aux guerres du Vietnam et de la Corée, c'est 10 fois moins, alors même que la population américaine est plus importante. Et là, c'est vraiment les années 90 qui modifient la donne, justement en raison d'une pression éthique, à savoir les gouvernants pensent qu'ils seront critiqués parce que leurs soldats meurent. Mais ça aussi, il faut le questionner. Parce que il y a des études qui ont été faites pour voir quel était le taux d'acceptation du nombre de morts au combat de la part de la population américaine. Et en fait, ce taux est très élevé. Si les États-Unis sont dans une guerre et ils ont un intérêt à être dans cette guerre, par exemple dans le cas de l'Irak, le taux d'acceptation était aux alentours de 20-30 000 suivant le type de population qui était interrogée. C'est énorme. Mais les gouvernants considèrent qu'ils ne peuvent pas prendre ce risque-là. Et alors, ils décident d'être extrêmement prudents et adoptent cette politique, en effet, très particulière, qui est celle de l'aviation, où là, on est dans une zone grise de la guerre, pas tout à fait en guerre, parce que c'est l'aviation, on peut se retirer assez vite, mais en même temps, c'est un acte de guerre, on viole la souveraineté d'un État et on lance des bombes. Et tout ça est lié au progrès de la technologie. Il faut voir ce débat éthique qui est lié au progrès de la technologie. La technologie donne les moyens de cette précision. Alors, il y a des civils qui sont tués, mais beaucoup moins de civils qu'auparavant.
Donc, des guerres, finalement, ça, c'est l'avenir. On en développera peut-être un peu plus loin dans cette émission, avec finalement des guerres employant de moins en moins l'humain pour privilégier les aspects techniques et technologiques. Est-ce que, pour ne parler que des États-Unis, il y a une sorte de justification de la prise de position de l'opinion américaine pour justifier une non-intervention à terre dans les conflits d'aujourd'hui, alors que finalement les échecs sont peut-être plus des échecs stratégiques si l'on s'en tient aux conflits en Afghanistan et en Irak. Frédéric Ramel.
Je pense qu'il faut dissocier aussi les théâtres, parce que ce que vient d'évoquer par exemple Ariel à travers le seuil de tolérance de l'opinion publique à l'égard des morts au combat, c'est quelque chose qui en effet existait déjà aussi dans les années 90. Je me rappelle très bien que Clinton avait décidé, par rapport au cas en Somalie, d'arrêter le soutien à un certain nombre d'opérations en Afrique pour cette raison-là. Il avait perçu que le seuil de tolérance était du coup dépassé. Là, on est dans un schéma de guerre expéditionnaire, c'est-à-dire des guerres qui sont menées à l'extérieur avec des guerres de haute intensité du point de vue, même si évidemment ce sont des opérations qui relèvent peut-être plus évidemment de la contre-insurrection. Mais il y a aussi d'autres théâtres stratégiques à prendre en considération où là l'opinion peut avoir aussi une variabilité, une variation. Je pense en particulier en Europe, parce que la question des boots on the ground, c'est aussi pas simplement lutter par exemple contre l'État islamique ou d'autres acteurs de cet acabit, c'est par exemple tout simplement assurer la réassurance ou mettre en place une dissuasion à l'égard d'un autre État. Je pense en particulier pour l'OTAN en Europe de l'Est, pour les pays baltes en particulier, et aussi des boots on the ground, mais dans une autre perspective, dans une autre logique.
Là, on est autour du conflit en Ukraine et de ce qui se passe dans l'Est du pays. Alors, la capacité des forces de l'OTAN dans les pays baltes que vous évoquez, Frédéric Ramel, essentiellement de la dissuasion, évidemment. En tout cas, c'est l'objet de cette présence.
C'est la finalité recherchée, avec aussi une demande de la part tant des dirigeants que des gouvernés par rapport à l'histoire tout à fait récente et par rapport aussi à la posture stratégique de la Russie depuis l'ère Poutine.
Mais pour en revenir au conflit que l'on connaît, en tout cas la situation qui prévaut aujourd'hui en Irak, en Syrie, Frédéric Charillon, on a bien compris que la stratégie du président américain Obama était aujourd'hui de ne pas intervenir militairement directement, ou en tout cas en force comme ça a été le cas pour l'Afghanistan. Est-ce qu'on peut imaginer un changement de stratégie et qu'est-ce qui pourrait faire changer les Américains ?
L'échec et les pressions politiques et un changement de gouvernement. L'opinion publique, c'est toujours très volatile, c'est toujours très compliqué. C'est-à-dire qu'on a connu ça aussi en Europe. On se souvient, il y a maintenant un petit peu plus de 20 ans, l'appel très très fort des populations, en tout cas telles qu'elles étaient mesurées par les sondages d'opinion pour des interventions dans les Balkans, avec une question qui dit, mais enfin, que fait l'Europe devant tous ces massacres, pourquoi on n'y va pas? Et puis on se souvient aussi, lorsqu'il y a eu vraiment intervention au Kosovo en 99, qu'au bout de quelques jours ou quelques semaines où c'était toujours pas réglé, l'opinion publique commençait à s'impatienter en disant, mais enfin, qu'est-ce qu'on fait là-bas? Comment ça n'est pas réglé? Alors il faut rentrer, etc. Bon, là, ça va être aussi difficile. C'est-à-dire que pour le moment, je crois qu'il y a très clairement une opinion publique américaine qui ne veut plus d'engagement au sol, au Moyen-Orient en particulier, dans cette région.
Ça, d'ailleurs, c'est 60% à peu près des Américains. Oh, oui, en tout cas, voilà, les sondages fluctuent, mais c'est une majorité.
Oui, et Obama a joué complètement là-dessus par cette annonce en septembre 2014, en disant « je n'engagerai pas le pays dans une nouvelle guerre dans cette région ». Bon, ça a été l'argument politique. Maintenant, face à l'État islamique qui fait de la provocation, qui cherchent toutes les niches possibles qui vont choquer l'opinion publique occidentale, les décapitations, les monuments, la culture, etc. Face à tout cela, effectivement, on va se poser la question de savoir si, même s'il y a une war fatigue aux États-Unis, est-ce qu'on peut continuer à laisser faire? Et c'est ça le piège, finalement, que ce type de mouvement pose, c'est de chercher l'engagement et de pousser la grande puissance à l'engagement. Il y a déjà un débat aux États-Unis. Il y aura d'abord le temps du débat électoral où forcément il sera de bon ton pour les républicains notamment de dire Obama est trop faible, il n'en fait pas assez, il ne rassure pas ses alliés, il perd ses alliés et en plus c'est lui qui a perdu l'Irak parce qu'il y aura une volonté finalement de refaire en quelque sorte le match des années 2000. Mais ensuite, même après l'élection, d'abord il faudra voir le résultat, est-ce que la pression de l'opinion publique va continuer ou pas? Ça va être la difficulté.
Est-ce que la question confessionnelle joue un rôle dans ces prises de décision? J'aimerais bien qu'on parle de la frilosité que vous évoquez dans la politique des oracles.
Si vous me permettez, revenir sur ce point du rapport à Daesh, à Syrie et l'Irak, en ajoutant un bémol, parce que je ne pense pas que ce soit la pression morale de la critique du nombre de morts américains tués dans une éventuelle intervention au sol, qui est ici la variable déterminante. Encore une fois, voilà, 4000 soldats américains tués en Irak, il n'y a jamais eu de manifestation massive de la part de la population américaine,
comme
pour le Vietnam.
Pour le Vietnam, en
75. Jamais, à aucun moment. Au contraire, c'est assez surprenant de voir cette acceptation qui est quand même silencieuse et qui en dit long sur la société
américaine. C'était en même temps une politique de réaction aux attentats du 11 septembre et cette...
Mais en même temps, justement, cette guerre devenait difficile, de plus en plus difficile, alors même que les objectifs étaient flous, surtout à partir du moment où il y avait eu la preuve qu'il n'y avait pas d'armes de destruction massive, quand bien même, finalement...
Mais les Américains se sont sentis attaqués directement et profondément.
Mais à propos de l'Irak, et c'est là où, Daesh, c'est là où je rejoins Frédéric Charillon, c'est vrai que c'est le piège. Il y a d'ailleurs un livre qui s'appelle Le piège Daesh, et c'est ça. Ce n'est pas tellement la peur de voir des soldats américains qui est ici la variable déterminante de l'inaction, c'est simplement qu'il n'y a pas de projet politique. On ne comprend pas quelle est la stratégie des États occidentaux vis-à-vis de Daesh. Et en revanche, il y a une variable qui, elle, a un rôle très très important, c'est la logique du piège. C'est-à-dire, vous intervenez là-bas, des Américains, des Français, des Anglais interviennent, foulent le sol irakien et syrien, et à ce moment-là, Daesh, évidemment, c'est la menace des attentats partout. Et cette espèce de bouclier moral du califat, enfin voilà, des Occidentaux qui viennent nous coloniser à nouveau. Et c'est, ça, évidemment, ça fait réfléchir et ça explique cette espèce de d'inaction. En même temps, c'est un double bind, vous ne pouvez pas ne rien faire. On décapite des gens, et puis aussi du point de vue de la géopolitique, justement, les puits de pétrole, enfin un nouvel État qui est en train de se construire. Parce que à terme, maintenant, certaines personnes disent ben, il y aura un État islamique, et qu'est-ce qu'on va faire quand il sera là? Mais en même temps, c'est très gênant d'accepter la formation de cet État, mais en même temps, on ne veut pas vraiment intervenir. Alors même que l'intervention, évidemment, que si les Américains interviennent en Syrie et en Irak, ils vont évidemment tuer les combattants de Daesh. C'est 60 000 personnes pour une armée américaine. C'est pas beaucoup. Mais en même temps, ils songent évidemment à la réaction ensuite d'autres personnes ailleurs.
La question du déploiement de troupes terrestres, ça a une implication d'engagement, ça a une valeur politique très forte, Frédéric Ramel.
Bah oui, en termes de but politique et en termes d'investissement et d'engagement, c'est évident. C'est un indice, un signe d'engagement d'un État sur le théâtre. Ça, c'est indéniable. Après, le problème, vous évoquiez en introduction la question, et Frédéric Charion l'a aussi suggéré tout à l'heure, c'est la question de l'efficacité. Aujourd'hui, face aux conflits armés contemporains, ces forces terrestres semblent de plus en plus inefficaces, en raison du fait aussi que, quand on projette des forces armées, c'était le cas particulièrement en Afghanistan et en Irak, on ne fait pas simplement la guerre, on fait aussi en parallèle de la reconstruction post-conflit. Et pour les soldats, c'est la quadrature du cercle. On ne peut pas, dans la doctrine, on parle de la fameuse approche globale, à la fois assurer le développement et assurer la sécurité. C'est extrêmement compliqué. Et aujourd'hui, lorsqu'on parle de boots on the ground, ça signifie que les soldats, les militaires, ne sont pas seuls sur le terrain en train de faire la guerre. Il y a à côté des humanitaires, il y a à côté des acteurs du développement, et comment on articule toutes ces composantes. Je pense que ça, c'est un élément extrêmement compliqué dans l'équation aujourd'hui lorsqu'on projette des forces à l'étranger.
Frédéric Charion.
Oui, c'est-à-dire que il y a deux phases dans l'envoi de troupes au sol. Il y a la phase qu'on pourrait résumer en anglais en disant le firepower, c'est-à-dire le moment où on se bat, le moment où on est dans l'habit de l'intervenant, voire du libérateur, en tout cas c'est ce qu'on souhaiterait. Et là, effectivement, généralement ça se passe plutôt bien, pas partout, mais en tout cas les premières phases de ce conflit-là se passent plutôt bien. C'est-à-dire que le régime est défait, il ne peut pas faire face à des grandes armées occidentales. Puis après, il y a la phase, en anglais, qu'on appelle le staying power, c'est-à-dire la capacité de rester au sol. Et là, on devient la cible, on devient l'occupant, et y compris le tissu social se retourne contre ce qui est devenu non plus une force de libération, mais une force d'occupation. Et là, effectivement, ça devient des cibles permanentes, avec un dilemme absolument terrible, qui est si on part, l'ennemi risque de reprendre le contrôle immédiatement et on aura fait tout ça pour rien. Si on reste, pour le dire de façon triviale, on va s'en prendre plein la figure, on va devenir la cible, on va être l'occupant. Bon, donc ça, c'est une première difficulté. L'autre difficulté, c'est un intervenant britannique qui le disait dans la matinée de cette journée d'études. Il disait finalement, on ne sait pas très bien ce qui marche. Parce que en Irak, on est intervenu, c'était les Britanniques et les Américains, les Français n'y étaient pas, mais on est intervenu, on a occupé, ça n'a pas marché. En Libye, on est intervenu, on n'a pas occupé, ça n'a pas marché non plus. En Syrie, on n'est pas intervenu, on n'a pas occupé, ça n'a pas marché non plus. Donc effectivement, le dilemme est assez compliqué. Alors après, la question de l'intervention au sol, il faut aussi la regarder du point de vue du désengagement après, c'est-à-dire de se poser la question de la phase d'après. Et c'est vrai que là, on a eu ce débat d'ailleurs dans cette journée. Est-ce qu'il est plus facile de se désengager avec des troupes au sol? Sans troupes au sol qu'avec. Il y a eu un débat que Cariel avait lancé sur cette question. Il y a l'aspect logistique. Très clairement, quand on a des troupes au sol, ne serait-ce que pour cette raison logistique, il faut les rapatrier, il faut les faire partir, il faut trouver des routes, ça a un coût, il y a le risque de se faire tirer dessus pendant le retrait, etc. Donc c'est plus difficile. Avec des avions, évidemment, une fois que la mission est terminée, il n'y a plus de troupes au sol, on n'a plus cette contingence logistique, donc c'est plus facile. En même temps, je rejoins ce qu'avait dit Ariel dans cette matinée-là, c'est vrai que la Libye, notamment, a montré qu'on ne pouvait pas s'en tirer comme ça. C'est-à-dire faire un bombardement et dire, voilà, mission accomplie. Après, lorsque ça se passe mal et que tout se délite sur le terrain, effectivement, la question du retrait reste aussi difficile et aussi importante qu'avec des troupes sur le sol.
Géopolitique, nous retrouvons nos invités Frédéric Ramel, Frédéric Charion et Ariel Colonomous dans quelques instants. À tout de suite.
Géopolitique. Marie-France Chatin.
Géopolitique, nous retrouvons nos invités, Frédéric Ramel, spécialiste des relations internationales, professeur à Sciences Po Paris, Frédéric Charillon, professeur des universités en sciences politiques et directeur de l'IRSEM, l'Institut de recherche stratégique de l'école militaire, et Ariel Colonomos, directeur de recherche au CNRS série Sciences Po et auteur de plusieurs ouvrages, dont le dernier, La politique des oracles, paru chez Albin Michel. Nous évoquons la question de l'engagement des troupes au sol suite à la journée d'études organisée par le Centre de recherche internationale de Syrie rattaché à Sciences Po en collaboration avec l'Association of United States Army, le Royal United Services Institute qui est un think tank britannique et l'université américaine Notre-Dame du Lac. Ariel Colonomos, vous souhaitez réagir ou approfondir la question que l'on évoquait en fin de première partie de l'émission quant à l'implication des troupes en Somme et l'engagement politique que cela représente, et en particulier la difficulté du désengagement une fois le conflit terminé.
Il y a deux questions au regard de la guerre et de ce qui nous préoccupe ici, c'est l'entrée et la sortie. L'engagement des moyens lorsque une armée combat, si les objectifs d'entrée et les critères de sortie sont clairs, ne devrait pas poser de problème. Vous êtes prêt à faire des sacrifices parce que vous avez des intérêts bien définis qui ont déterminé votre entrée en guerre, et il y a un consensus autour de ces critères. Voilà, le cas paradigmatique, c'est la guerre de légitime défense où vous êtes envahi. Et là, à ce moment-là, évidemment, vous vous engagez à vous défendre et à repousser votre ennemi, et vous engagez tous les moyens nécessaires. Et également, la sortie de la guerre, c'est à partir du moment où, eh bien, cet ennemi aura été repoussé, défait, où il y aura eu un traité avec lui, et ainsi de suite. Mais là, toutes les guerres que l'on mentionne, nous ne sommes pas dans ce cas de figure. Il n'y a pas de consensus autour des critères qui mènent à la guerre. Chacun, finalement, a des raisons qui sont différentes. Ces raisons, par ailleurs, sont mal expliquées. Je pense notamment au cas de la France. Les dernières interventions militaires de la France, enfin, silence radio, enfin, je ne sais pas, peut-être que vous avez eu des invités chez vous qui vous l'ont expliqué, mais sinon, la grande muette, enfin, on ne sait pas pourquoi exactement ces interventions ont eu lieu. Et ensuite, évidemment, silence radio autour des raisons de la sortie. Sauf que, évidemment, comme le disait Frédéric Charillon, une fois que vous êtes rentré, vous ne pouvez pas sortir trop vite, mais il n'est pas bon non plus de trop s'attarder. Parce que les pertes, eh bien, s'accumulent.
Vous avez en tête l'exemple afghan.
Oui, voilà, l'Afghanistan, l'Irak, tout ce débat aux États-Unis sur quelle est la stratégie de la sortie. Et il y a eu énormément de débats, aussi bien chez les personnes qui font de la stratégie, mais chez des personnes aussi qui travaillent sur les normes et l'éthique de la guerre, la question du jus ex bello, à partir de quel moment on décide que là, c'est un critère pour sortir. Et ces critères sont pluriels, il n'y a pas d'accord. Et tout cela, évidemment, rend l'évaluation des guerres aussi difficile, parce que Frédéric Charillon disait, voilà, telle guerre a échoué, et ainsi de suite. Mais au nom de quels critères ? Vous aurez des personnes qui vous diront, non mais au nom de mes critères, eh bien, cette guerre-là, peut-être, est plus satisfaisante. Et par ailleurs, eh bien, il faut le comparer à la situation où il n'y aurait pas eu de guerre. Donc c'est extrêmement compliqué, alors qu'une guerre de légitime défense, c'est à peu près clair. Ici, rien n'est clair. Et c'est vrai que les troupes au sol, envoyer des troupes au sol, c'est problématique, parce que vous perdez la face. Alors qu'avec des avions, pour des raisons de perception, eh bien, à ce moment-là, les avions qui rentrent à la maison, c'est moins une défaite morale que des cercueils qui rentrent à la maison pour avoir poursuivi des objectifs qui ne sont pas clairs. En gros, quand vous envoyez des troupes au sol, eh bien, il y a des morts, ces morts s'accumulent, mais ensuite, finalement, vous ne pouvez pas sortir parce que vous avez trop perdu. C'est comme le joueur qui se dit « non, il faut que je me rattrape ». Et ça, c'est le vrai piège. Et il est clair que dans le cas de Syrie, Irak, Daesh, c'est exactement ce qui pourrait se passer, parce qu'il y a une asymétrie des forces terrible, mais en même temps, il y aura toutes sortes d'événements qui n'étaient pas prévus, qui n'étaient pas prévisibles, qui feront que l'engagement devra se poursuivre. Et puis après, il y a cette doctrine, une fois que vous avez cassé quelque chose, vous devez payer. C'était la doctrine Powell, once you break it, you own it. Et donc, voilà ce que disait Frédéric Ramel, et bien à ce moment-là, vous devez tout reconstruire. Et là, ça prend beaucoup de temps. Alors que si vous bombardez, d'une certaine manière, à tort, peut-être, mais vous ne considérez pas que vous êtes tenu de reconstruire le pays.
Il n'y a pas la même implication, pas le même engagement. Frédéric Charillon, je me tourne vers vous. La France, les interventions de la France, la Grande Muette, c'est ce que Ariel Colonnemose disait à l'instant. Juste pour mémoire, l'outil militaire français, il a été amplement sollicité ces 5 dernières années. Côte d'Ivoire, Libye, Mali, opération qui en fait de la France la puissance de l'Alliance Atlantique la plus interventionniste. La France, la Grande Muette, on ne sait pas ce qu'on est parti faire au Mali.
Mais disons qu'il y a un discours, puis après il y a des questions. Le discours, c'est une guerre contre le terrorisme. Bon, ça on l'a dit, ça a été d'ailleurs critiqué, ça a été très très commenté. Après, c'est compliqué, parce qu'effectivement, il y a d'autres théories, d'autres approches, qui nous disent, bien sûr, les approches par le complot, il y a sûrement autre chose, il y a des intérêts cachés, etc. Après, il y a l'inacceptable. Je crois qu'en fait, il y a une notion, à un moment, d'inacceptable. C'est-à-dire qu'il y a des intérêts qui sont menacés. Bon, dans le Mali, je crois que tout le monde a compris qu'effectivement, à partir du moment où les djihadistes passaient en dessous d'une ligne et menaçaient la capitale et s'apprêtaient effectivement à saisir la capitale, c'était, pour un certain nombre de raisons, inacceptable. C'était inacceptable pour les intérêts géopolitiques de la France, c'était inacceptable pour les populations qui ont beaucoup de binationaux en plus dans ces pays. Donc je pense qu'il y a un débat, mais comme d'habitude, le débat ne peut pas être épuisé. Ce qui est intéressant dans le cas français, c'est que justement, on n'est pas du tout dans l'approche par le no boots on the ground. Mm. Au contraire, je pense que le débat est en cela, je crois qu'il faut vraiment le souligner, est très très différent, il est même inverse entre l'Amérique du Nord, enfin les États-Unis et l'Europe.
Et qu'est-ce qui explique ces différences?
C'est une question de légitimité et de positionnement géopolitique. C'est-à-dire qu'aux États-Unis aujourd'hui, la question, l'enjeu, c'est pour un homme politique qui se veut crédible, et c'est ce qu'essaye de faire Obama, de dire, est-ce qu'il y a quelqu'un qui sera assez intelligent pour faire autre chose que des boots on the ground? Parce que vous voyez où ça nous a mené, eh bien moi je vais faire autre chose parce qu'on en a assez. Alors, c'est ça, la légitimité politique telle que la joue Obama, c'est de dire, mon prédécesseur a déclenché deux conflits, il a envoyé des hommes sur le terrain, ça n'était pas une stratégie intelligente, est-ce que moi je suis capable de faire mieux et de trouver autre chose? C'était ça le défi. En Europe, et même en France, où on n'a pas tout à fait les mêmes moyens, et où justement il y a cette question qui se pose sur la capacité des Européens à être encore des acteurs stratégiques, c'est l'inverse. Y a-t-il encore quelqu'un capable d'envoyer des troupes au sol? Y a-t-il encore un État européen qui a les moyens, qui a la volonté, qui a la capacité de le faire? Et les Français, généralement, souhaitent montrer que oui, en dépit de tout ce qu'on a dit, en dépit des prédictions sur les restrictions budgétaires, les réductions de capacité des armées, peut-être aussi une comparaison avec nos voisins, qui n'a pas toujours été forcément flatteuse dans le passé, où on a souvent annoncé que l'Allemagne serait une puissance plus importante, etc. Souvent, on a l'impression qu'on souhaite montrer que si, lorsqu'il faut y aller, nous sommes l'acteur capable de le faire et d'envoyer des troupes au sol. Alors, il y a une politique qui consiste à miser sur la crédibilité, notamment vis-à-vis des alliés. C'est-à-dire, c'est une façon de retrouver une crédibilité vis-à-vis des États-Unis comme allié important, comme allié volontariste, comme allié capable stratégiquement de mener ce genre d'opération. Et là, on est à front renversé par rapport aux États-Unis.
Et cet objectif-là a été atteint, Frédéric Charillon ?
D'une certaine manière, je pense, oui, parce que ça dépend quels sont les indicateurs. Je ne parle pas de la réussite ou des opérations. Enfin, au Mali, je crois que ça a vraiment été objectivement considéré comme une réussite sur le plan de l'opération militaire elle-même. Après, politiquement, on peut en discuter. Fallait-il, ne fallait-il pas ? Pourquoi ? Pour quelles raisons ? Ça dépend que l'on cherche, que disait Ariel. Alors, quels sont les véritables objectifs? Si l'objectif était de remettre l'action extérieure française au cœur de la politique internationale en faisant passer, véritablement montrant la France comme un acteur volontariste et capable stratégiquement de conduire des opérations, je crois que c'est assez réussi. Si on prend comme point de mesure le nombre d'articles qu'il y a dans la presse anglo-saxonne, dans les think tanks, dans les lettres de défense, oui, très clairement, il y a eu une inflation considérable. On redécouvre, en quelque sorte, pas tout le monde, parce que les militaires américains qui travaillent depuis longtemps avec les Français dans différents types d'opérations le savaient, mais le grand public ou même un ensemble de think tanks ou d'hommes politiques américains ont redécouvert effectivement la capacité stratégique française.
Ce qu'on sent en tout cas au travers la journée d'études qui sont donc tenues il y a quelques jours, c'est une volonté, alors voilà, après ça, quel est le degré de profondeur de cette volonté côté américain, peut-être d'écouter davantage, voilà, par rapport à 2003, l'intervention en Irak et en Afghanistan, c'est peut-être de tenir davantage compte des alliés des États-Unis, Frédéric Ramel. Plus d'écoute.
À mon avis, il faut être très prudent. Je pense que oui, une prise de conscience que les Américains ne peuvent pas tout faire, ça c'est clair. En même temps, sur la manière de se comporter, la manière de faire, je pense que les Américains sont encore, en tout cas, ont une image d'eux-mêmes qui est quand même très robuste. Mais j'aimerais revenir sur un point que vient d'évoquer Frédéric Charion. Je suis complètement d'accord sur le fait qu'il y a cette idée selon laquelle la France est encore un acteur de renom et qu'elle est capable de mener des interventions. Je pense aussi qu'il y a un autre élément qu'on devrait aussi prendre en considération, même si dans les configurations actuelles, c'est extrêmement compliqué de le mettre en valeur, c'est le différentiel français « on the ground ». Parce que il y a quand même aussi une culture militaire ou une culture du militaire on the ground qui justement n'est pas purement technologique, qui n'est pas dans son tank et qui essaie de se protéger en permanence face aux populations qui sont sur dans ces sociétés ciblées, hein, mais suite notamment aux interventions, enfin à l'ère interventionniste qu'évoquait Ariel tout à l'heure des années 90, les militaires français, en particulier dans les Balkans, avaient une conduite sur le sol qui était radicalement différente de la conduite des Américains. Donc de liens plus avec les populations, etc.
Ce n'est pas spécifique à l'Afrique. Je voulais dire par là qu'il y a une connaissance du terrain par la France en Afrique. Et en revanche, dans les Balkans, peut-être une moindre connaissance. C'est plutôt une façon de faire, quel que soit le terrain. C'est cela qu'il faut entendre, Frédéric Ramel.
Du moins, en tout cas, dans les écoles en France, les écoles militaires, on essaie de mettre en valeur cette dimension, qui est considérée d'ailleurs comme un différentiel par rapport aux autres armées. Même si, là encore, à l'heure actuelle, dans les configurations de guerre asymétrique, c'est extrêmement compliqué de mettre en œuvre tout cela, en sachant qu'il y a aussi des effets dominos, parce qu'on parle du Mali à l'instant, parce que c'est en effet le moment extrêmement intéressant du point de vue de ce revirement de la France par rapport aux interventions. À mon sens, on ne peut pas comprendre le Mali sans la Libye, parce que il y a un effet domino, hein. C'est ce qui s'est passé en Libye. Enfin, c'est pas le facteur unique, mais qui a contribué à faire qu'il y ait une déstabilisation dans le Sahel.
Oui,
je voudrais rajouter une chose à propos de ce paradoxe français, parce que voilà, les Américains sont les plus forts. En même temps, maintenant, ils seraient moins interventionnistes que les Français. Les Américains ont déployé des armées sur le sol, et en même temps, leur population les a peu critiqué, les présidents américains, en raison de ces pertes. Mais dans cette nouvelle configuration française, il y a aussi un élément. Alors, évidemment, c'est juste un exemple, mais dans quelle mesure est-il révélateur d'une logique plus profonde? Il y a eu une volonté de la part de familles, de soldats qui ont perdu la vie en Afghanistan, de poursuivre l'armée française en raison de négligence. Et ça, c'est extrêmement intéressant. C'était une première fois, je crois, que cette action en justice a voulu être menée. Et à ce moment-là, on se retrouvait dans une situation où, bon, les gouvernants français, alors, comme dit Frédéric Charion, pour redorer leur blason auprès de leurs alliés, je ne sais pas si c'est vraiment une raison satisfaisante pour mener une guerre, veulent mener des guerres. Et en même temps, peut-être que celle-ci, en revanche, en France, des pertes militaires, peut-être que là, il y aurait un degré d'acceptation moindre que, par exemple, aux États-Unis. Et alors là, que faire? Et donc, finalement, la solution, c'est mener des guerres, parce que, voilà, il y a ces intérêts stratégiques ou politiques. Le compromis, c'est donc mener ces guerres pour ces raisons-là, et en même temps, ne rien dire de ce qui se passe sur le terrain. Combien de morts? Combien de morts civiles? Quels sont les chiffres officiels? Combien de prisonniers? Il semblerait que les prisonniers au Mali, puisque la France ne veut pas de Guantanamo, eh bien, ces prisonniers sont expédiés en Algérie. Pourquoi n'en parle-t-on pas? Et voilà, donc on mène des guerres, on ne parle ni des tués, ni des prisonniers, mais en même temps, voilà, il y a des raisons politiques qui mènent à poursuivre ces guerres, parce qu'on parle de guerre contre le terrorisme en France, mais quelle est l'incidence de l'intervention au Mali sur la sécurité intérieure française? Est-ce qu'on peut nous démontrer que s'il n'y avait pas eu de guerre au Mali, il y aurait plus d'attentats, il y aurait plus de personnes décapitées dans les entreprises? Franchement, nous n'en savons rien.
En tout cas, c'est un choix de politique militaire et de politique tout court qui a été fait à un instant T, en prévention d'autre chose peut-être aussi. Et l'aspect préventif, aussi flou puisse-t-il être, est tout de même un aspect qui pèse dans une décision, Frédéric Charrier.
Oui, l'aspect préventif, il est présent dans la mesure où d'abord on essaye, il y a forcément un moment où on craint une espèce de sanctuaire ou une base ou un territoire entier qui servirait de base d'entraînement et en même temps dans l'infrastructure à des groupes terroristes. Donc voilà, il y a cet aspect-là. Il y a aussi plus de façon symbolique la prévention, effectivement, par la démonstration de force. C'est-à-dire, vous voyez, nous sommes capables de façon assez rapide d'intervenir, etc. Mais je vais revenir sur justement le fait, la signification justement de prendre la décision pour soit par prévention, soit par réaction, d'envoyer des troupes au sol. D'abord, encore une fois, il y a des pays qui s'en vantent. Je veux dire, souvent, les livres blancs par exemple, de la défense, français, britanniques ou autres, mettent en avant ces effets d'annonce en disant, vous voyez, nous allons prendre des décisions qui vont permettre d'envoyer un certain nombre d'hommes assez vite, pour longtemps, loin, etc. Donc, c'est pas du tout une stratégie où on dit, nous n'enverrons plus de troupes au sol. En France ou en Grande-Bretagne, on veut montrer qu'on est capable encore de le faire. Après, le fait d'envoyer des troupes au sol, il y a un paradoxe et puis il y a un danger de ce débat. Le paradoxe, c'est que aujourd'hui, me semble-t-il, il est à la fois sur le plan militaire important d'être capable de s'engager seul. On le voit, on l'a vu au Mali, on l'a vu pour les États-Unis ailleurs. Même si les alliés traînent, même s'ils sont pas convaincus, même si on n'arrive pas à trouver de soutien, il est important d'être capable d'y aller seul à un moment. Mais ensuite, et très vite, on est rattrapé par un autre élément, c'est que politiquement, il est tout aussi important de ne pas le rester seul. Et ça, c'est un paradoxe très difficile. Il faut pouvoir y aller tout seul, mais si on reste tout seul trop longtemps, alors là, effectivement, on perd en légitimité, on perd en efficacité, on devient une cible et ça devient très dangereux. Il faut y aller en premier.
Être initiateur. Alors, en ce qui concerne l'avenir, les drones, les robots, est-ce que le modèle américain de guerre de l'ombre ou de guerre par procuration est finalement la voie adéquate ? Frédéric Ramel.
Oula, je ne sais pas si c'est la voie adéquate, mais en tout cas, c'est une des voies qui a été prise par l'administration Obama. Et moi, je pense que ce qui est intéressant, c'est que du point de vue rhétorique, Obama a voulu vraiment se différencier de l'ère précédente. Plus de guerre contre la terreur qu'on évoquait il y a un instant. On sort de cette rhétorique-là, et donc on se dit, on est vraiment dans une rupture. On sort de l'Irak, on sort de l'Afghanistan, mais en même temps, il y a une continuité du point de vue de l'usage des forces spéciales, de l'usage des drones. Et donc, de ce point de vue-là, il y a, au contraire, il y a un sentier qui a été identifié et Obama l'a complètement, je dirais, densifié.
Mais surtout, pas de visibilité. C'est ça qu'il faut comprendre aussi dans cette stratégie des États-Unis.
Il y a cette dimension d'invisibilité, mais il y a aussi peut-être une question d'efficacité. C'est-à-dire que stratégiquement, le drone est plus efficace qu'un soldat, qu'il faut assurer la rotation. Et avec des effectifs moindres, il y a un calcul. En tout cas, il y a un réel calcul.
Ariel Colonnemos.
Le drone s'est rapidement imposé comme une nouvelle arme qui est devenue presque banale. Son point de départ, c'était Israël et les Palestiniens. C'était dans un conflit qui était très, très localisé. Et il y avait vraiment des groupes qui étaient des ennemis. Enfin, en revanche, là où il y a eu une nouvelle phase de développement des drones, c'est avec l'initiative prise par Bush, mais ensuite, c'est Obama. C'est le président des drones, Obama. C'est lui qui a le plus développé cette arme. Et là, on rentre dans une nouvelle phase. Ce sont des drones qui frappent des individus dans des pays avec lesquels les États-Unis ne sont pas en guerre. Et ça, du point de vue du droit, mais du point de vue politique, cela pose d'énormes problèmes. C'est impossible, à mon sens, de justifier ça en droit. Alors évidemment, il y a des avocats qui travaillent pour la Maison-Blanche, qui pourraient essayer de nous convaincre que c'est légal. Je ne vois pas comment. Et ça, c'est aussi jouer avec le feu, dans la mesure où les drones sont finalement une arme qui est très économique. Et donc, tout un chacun va pouvoir se munir de cette arme. Et imaginez si en France, eh bien, quelqu'un est ciblé par un drone d'un État X qui veut poursuivre un ennemi Y. Et ce sera véritablement le chaos. Et de ce point de vue-là, les États-Unis ont ouvert la voie du chaos. À moins de dire que, voilà, nous sommes les seuls à pouvoir les utiliser, puisque nous sommes dans une position exceptionnelle. Mais ça ne veut pas tenir. Ça va faire des émules.
Et une question qu'on n'a pas le temps d'évoquer, mais qui est un sujet que vous connaissez bien, c'est la question des robots avec un développement.
C'est la prochaine étape. L'aviation, les aéromorts de l'aviation, donc pas de soldats au sol qui est tué, mais quand même le pilote qui est dans l'avion. Ensuite, le drone où il n'y a pas de pilote, mais le drone est téléguidé. Et la prochaine étape, c'est le drone autonome. Il n'y aura pas besoin d'une personne pour actionner la mise à feu du drone. Et ensuite, une autre étape, c'est le robot autonome qui va pouvoir faire feu en étant un fantassin androïde. Et ce qui pose toutes sortes de problèmes. Alors évidemment, ça peut prendre du temps, plusieurs décennies. Mais les programmes de recherche sont là et c'est tout à fait concevable. Ce qui pose des problèmes de responsabilité. Que se passera-t-il lorsqu'un robot va commettre des crimes de guerre? Qui sera responsable?
Robots on the ground.
Voilà, une prochaine émission, Robots on the ground. Merci, c'est la fin du Géopolitique. Merci à nos invités. Frédéric Ramel, spécialiste des relations internationales et professeur à Sciences Po Paris. Paris, Frédéric Charillon, professeur des universités en sciences politiques et directeur de l'IRSEM, l'Institut de recherche stratégique de l'École militaire, et Ariel Colonomos, directeur de recherche au CNRS, série Sciences Po et auteur de plusieurs ouvrages, dont le dernier, La politique des oracles, paru chez Albin Michel. Vous pouvez retrouver l'émission sur le site internet de RFI, www.rfi.fr, également sur Facebook, Géopolitique le débat, émission signée Marie-France Chatin, Véronique Durand et Nathalie Laporte. À très bientôt.